Geoffrey, salut, désolé, hein, j'ai failli être en retard, j'arrive juste des CESO et j'ai eu du mal à me garer. Il n'y a pas assez de place là, de stationnement sur cette place de la Liberté. Vu le froid dehors, j'ai en plus préféré laisser tourner le moteur du 4x4 pendant l'émission. Geoffrey, tu me fais signe quand on est à l'antenne, j'ai pas vraiment eu le temps de préparer quelque chose là, mais je vais le faire d'ici là ou sinon peut-être en mode impro. J'ai d'ailleurs vu qu'il est question de se nourrir ce soir, alors je t'ai ramené un petit paquet de framboises, histoire d'avoir des choses appétissantes, juteuses. Par contre, on les bouffe avant le plateau parce que provenance Afrique du Nord, donc ça le ferait pas trop, histoire de produits de saison et circuits courts. Tu me dis, hein, dès qu'on est à l'antenne, il n'y en a pas pour longtemps pour préparer tout ça. Je me suis dit également que si on parle agriculture, on pourrait aussi parler culture. J'ai repensé à un super bouquin qui parle de pratiques éco-citoyennes. Ça s'appelle « Comment chier dans les bois ?» Et je te propose qu'on s'intéresse au tome 2 ce soir qui va certainement sortir. C'est « Comment pisser en ville ?» Je crois qu'il y a un super truc à faire là-dessus. Et quand on voit l'état de certains trottoirs, je crois que la question de l'urine en ville est d'actualité, au centre de la citoyenneté. Si on ferait un truc avec la formule « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres », il y a quelque chose de sympa là dans cette déclaration des droits de l'homme. Ensuite, je te parlerai d'innovation, parce que quand on pense à des pratiques éco-citoyennes, il y a sans aucun doute des choses qui existent, mais aussi des nouveautés à présenter. Je te ferai du mauvais jeu de mots, hein. Par exemple que l'innovation est sans doute un mélange entre l'innoventura et la motivation. Tu sais, le mec boxeur, catcheur, devenu acteur. Il y a quand même une notion de révolution, un changement, le truc auquel on s'attend pas. Et quand on parle d'innovation, il y a sans doute un peu de ça. Et puis le mec, fils d'immigré, qui crée une fondation pour venir en aide à des personnes en difficulté. Ça résonne à du lien social, voire du progrès social. Et là encore, on touche sûrement à l'innovation et ce à quoi elle doit servir. Du coup, pour le deuxième mot, motivation, c'est sûr qu'il a sa place dans l'innovation, mais je verrai peut-être sur le moment pour le remplacer par ovation, la référence à l'accouchement d'une belle idée. Non, ça c'est ovulé. Sinon, on peut prendre la salivation pour le fait d'en baver, ou la salvation pour ce qui doit être sauvé dans l'innovation. Alors, j'ai aussi trouvé excavation de bonnes vieilles idées, observation de l'existant, privation, rénovation et surtout activation ce soir. On verra ce qu'on choisit tous les deux. Et tu regardes la pendule, hein. Je pense qu'on n'est pas loin d'être à l'antenne. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on reviendra à nos moujons. Oui, alors tu me regardes avec tes yeux de merlan frit, j'ai bien dit moujon, le mélange entre mouton et pigeon. C'est bien cela dans le fait de revoir ses pratiques et s'interroger. Arrêter de se faire tondre comme un mouton et de tout gober comme un pigeon. Tu vois, mettre l'accent sur des faits, sur un raisonnement scientifique, un certain esprit critique. Après, on pourra aussi dire piton, toujours dans le mélange entre pigeon et mouton. Mais pour les pitons, faut s'accrocher, sauf pour les Monty Python, peut-être un peu plus accessible. Et si on pense à Python, on pourrait aussi le glisser dans la rubrique « Ça se soigne ». En parlant de l'aspi venin, c'est local. Après, promis, je ne ferai pas de blague sur ce qui se suce ce soir. Bref, le mieux, ça serait peut-être d'interroger certaines sources pour définir l'éco-citoyenneté. Style Siri, dis Siri, c'est quoi l'éco-citoyenneté? Dis Siri, allô Siri. La Siri ne répond plus. Et pourtant, faire appel à la Siri quand on veut forger quelque chose, comme de nouvelles idées, c'était top. Allez, je suis sûr qu'il n'y a plus que quelques dizaines de secondes. J'ai pensé en fait à deux innovations que tu pourrais peut-être présenter ce soir. D'abord, c'est ça, la pagaie. Parce que dans les pratiques éco-citoyennes, avec des modes de déplacement lents, d'où mode la caresse de l'onde, c'est peut-être savoir aller à contre-courant d'un mouvement de masse, ou au moins choisir sa direction dans un certain flux. Là, je sens que c'est toi qui vas ramer. Et la deuxième, c'est plus personnel. J'ai vu qu'il sera question de se vêtir ce soir. Alors, j'ai bien compris qu'on allait tous finir à poil dans quelques instants parce qu'on va nous parler de chercheurs qui se mettent à nu. Mais le truc un peu plus perso, c'est que j'ai lancé avec deux camarades, David, Catherine, une start-up qui fabrique des godes à partir de pneus recyclés. C'est local, c'est du circuit court, il y a du recyclage. Je pense que c'est parfait, quoi. Par contre, je vois qu'il y a un problème avec les pneus recyclés en ce moment. J'ai commencé de voir dans la presse des choses sur les terrains de foot artificiels qui les utilisent et où on se pose la question de la dangerosité du produit. Mais si tu peux quand même m'aider à faire la promo de ma petite start-up et à faire passer mon intérêt personnel avant l'intérêt collectif, ça serait sympa.
Fred.
Oui.
On est à l'antenne, là.
Tu veux dire depuis...
Ça a commencé.
Depuis 5 minutes, là?
Depuis 4h30.
Tu veux dire que je suis enregistré par un groupe d'étudiants qui rediffuse ensuite sur les médias ma parole?
J'en ai pas.
Mot-clic Vauquier-Gate, mot-clic Bullshit?
Ouais, et ils ont pas l'air contents.
Ok, et ben, donc il me reste plus qu'à me biodégrader sur place et à laisser place à l'émission sous l'ovation du peuple de cette maison.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Radio Campus, 93.3 sur la FM.
Et bonsoir tout le monde, merci Fred pour ce billet d'humeur. Je suis convaincu que nos invités ce soir vont répondre encore mieux que moi à tes interrogations. Je vois déjà Alexis, l'œil pétillant en évoquant la start-up Utopie. Donc on va voir Alexis. Hein.
Ouais.
Donc ce soir, émission un peu particulière puisqu'on l'a fait en direct de la Maison du Peuple. Pour la soirée des alternatives. Alternatives, et on va le voir, hein, qui a pour ambition de lier la culture et les pratiques éco-citoyennes. Mais j'en dis pas plus, parce que Cindy nous expliquera dans quelques instants exactement le contenu de la soirée. Bah, on va commencer peut-être avec toi, Alexis, hein, pour nous présenter l'Utopie. Qui tu es déjà, Alexis ? Et puis nous présenter l'Utopie, la structure et pourquoi on est tous là ce soir.
Ça marche. Eh bien, bien le bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, je suis Alexis et je suis salarié à l'Utopie. Donc, pour présenter un petit peu ce que c'est que l'Utopie, l'Utopie, c'est deux choses. C'est d'abord une association étudiante et c'est une association étudiante qui se donne pour mission de répondre à des besoins et des aspirations étudiantes. Et donc, pour ça, elle anime un certain nombre de services. On va y trouver un café solidaire où, en fait, on dit solidaire parce que tous les bénéfices sont réinvestis dans le projet. Il va y avoir une épicerie pour les étudiants qui essaye de rendre accessibles des produits bio, locaux, équitables pour les étudiants. Et on va avoir une programmation culturelle quotidienne qui se penche sur tout un tas de thématiques et qui essaye de répondre vraiment aux besoins culturels des étudiants.
Mais du coup, en quoi tu dirais que l'Utopie, finalement, c'est un acteur des pratiques éco-citoyennes ?
Déjà de par ses actions en fait au quotidien, parce que du coup l'Utopie c'est un lieu et c'est un collectif aussi du coup, et tout le collectif se donne toujours a vraiment toujours envie de faire en sorte que ces événements, ce qu'il produit dans ses services se fasse de manière la plus éco-responsable possible, en économisant de l'énergie, en recyclant, enfin tout ce qu'on connaît un peu du plus basique, tout ce qui est à notre portée, on le fait, et de par les actions qu'ils mènent et la promotion de tout ça.
Et tu dis que c'est un collectif, c'est-à-dire ça fait quoi ? Ça fait combien de bénévoles, combien d'adhérents à l'Utopie ?
Alors, ça c'est en constante augmentation, donc le chiffre que je vais vous donner aujourd'hui, il sera pas valable demain, et il n'était pas valable hier, mais il y a environ, en termes d'adhérents, donc c'est-à-dire de gens qui croient en la structure, qui soutiennent, etc. Là, on est à peu près 700 adhérents cette année. Et en termes de bénévoles, donc qui mettent la main à la pâte vraiment régulièrement, etc., il doit y avoir à peu près une trentaine de personnes très actives. Et sur toute l'année, je pense qu'on va au moins avoir une cinquantaine de personnes qui aura au moins aidé sur une ou deux choses. Et voilà. Et sinon, après l'équipe interne, il y a deux salariés, du coup, sur la vie associative, Marine et moi, Alexis. Et après, il y a deux volontaires en service civique qui s'occupent de la programmation culturelle.
Ok, bah justement, Cindy fait partie de ces bénévoles. Cindy, bonsoir.
Bonsoir.
Donc Cindy, tu fais partie de l'équipe qui a contribué à organiser l'événement ce soir. Tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, moi du coup je suis bénévole depuis 4 mois à l'Utopie, enfin bénévole juste pour cette soirée-là, j'avais pas beaucoup de temps avant. Donc la soirée des pratiques, des alternatives éco-citoyennes, on a choisi d'organiser cette soirée pour permettre aux gens de rencontrer des acteurs locaux qui proposent des alternatives éco-citoyennes sur plusieurs thématiques, comme se nourrir, se loger... on a réutilisé pour tout ce qui est recyclage, se déplacer, se vêtir.
Ouais, je crois qu'il y a
et se soigner
aussi.
Ouais. C'est ça. Donc avec de nombreux acteurs locaux, on peut compter parmi eux le Reaper Café, Alternativa 63, le Parc Oasis, We Dress Fair, les petits débrouillards d'Auvergne, Conrail Durable, l'Association des Naturalistes d'Auvergne. On a aussi présente sur le village des alternatives une naturopathe, Lucie Falgou. On a la Bobina Pois, donc c'est une jeune créatrice de mode qui est auvergnate et qui se déplace rarement. Donc elle l'a fait ce soir pour nous, on en est très heureux. Après on a les jardins de Max et Lucie qui sont là ce soir et qui je crois vont cuisiner. Et on a le covoiturage Auvergne et un guidon dans la tête aussi pour se déplacer. Après, par la suite, à partir de 20h, on a donc un spectacle de théâtre. Donc, c'est la troupe Les Boudeuses qui font du théâtre de rue. Et je crois que la pièce ce soir s'appelle La Crie à la rue verte.
C'est possible. Donc, du coup, ils font du théâtre de rue dans la salle, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Okay. C'est un nouveau concept pour nous ce soir.
Super.
Elles tournent sur des festivals généralement l'été. Et elles sont présentes ce soir donc, pour sensibiliser le public à l'éco-citoyenneté.
Ok, et ensuite j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit concert, c'est ça?
C'est ça, Hoffman Blues je crois. Un petit concert pour clôturer la soirée.
Super, et ben merci Cindy. Et puis, on se retrouve dans 2 minutes.
Raconter les salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons bien. Faisons pas les choses à moitié. Vu que de toute façon on va tous crever. Un seul objectif en tête, niquons la planète.
Faisons l'amour à la terre. Des tonnes de pétrole dans la mer. Du CO2 dans l'atmosphère. Phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver, et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète,
niquons la planète,
niquons la planète.
Parce que c'est ma raison d'être.
Et on revient dans cette émission spéciale sur les pratiques alternatives, les pratiques éco-citoyennes. Et on a maintenant sur le plateau les étudiants du Master Innovation Sociale. Bonsoir les gars,
bonsoir
les
salut.
Filles. Qui vont nous parler du coup à la fois de leur master et puis ensuite on aura un petit débat sur qu'est-ce que c'est que l'innovation sociale, etc. Tout à l'heure Fred nous en a donné sa définition. Est-ce qu'elle correspond vous à votre définition de l'innovation sociale? Et puis on parlera aussi un peu d'économie sociale et solidaire puisque je crois que c'est quand même un peu lié, non?
Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais.
Alors, ce master, les gars.
Alors, ce master, il est en développement des territoires, donc c'est un master de géographie. Et donc, il y a l'aspect innovation sociale qui est dedans, et donc qui amène qui amène à découvrir la géographie par le biais de l'humain. et mettre un peu l'humain au centre de la géographie. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Loïc ?
Alors, je suis plutôt d'accord. Après, la petite particularité, c'est que on est pas mal d'entre nous à ne pas venir spécialement d'un parcours de géographe. Moi, j'ai démarré par le commerce, ensuite commerce équitable, puis communication. Et on est pas mal, en fait, à avoir des parcours assez atypiques et pas forcément hétérogènes. C'est ce qui fait aussi la richesse de la formation. Et du coup, voilà, ouais, pour rejoindre Sébastien, c'est vraiment sur le développement du territoire et comment articuler un petit peu toutes ces initiatives sociales et solidaires sur un territoire.
Donc, quand Fred, tout à l'heure, en fait, il nous parlait de lien social, il n'a pas besoin de faire un master innovation sociale, il la connaît, la définition de l'innovation sociale, non ?
Et elle est bien détonnante, elle est vraiment sympa, cette définition. Moi, elle me plaît beaucoup.
Et du coup, est-ce que vous iriez un peu plus loin que Fred ou pas dans votre définition de l'innovation sociale ?
Alors, l'innovation sociale, c'est un terme qui est des fois un peu galvaudé, qui est très large. Nous, on a vu avec Nicolas Duracca, une définition qui est spécialiste dans la communication et l'économie sociale et solidaire, une définition sur l'innovation sociale qui nous a touché et dans laquelle on se retrouve, en différenciant les innovations sociales faibles et les innovations sociales fortes, pardon. Faible, ça serait plutôt ce qui est dans l'entrepreneuriat social, qui est une innovation qui est dite faible parce que ça reprend un peu les mêmes codes que l'entrepreneuriat classique. Cependant, il y a plutôt c'est axé sur quelque chose qui est fait pour aider les autres.
Moi je vous coupe parce que j'entends innovation sociale faible et je me dis, si je suis un entrepreneur et qu'on qualifie ce que je fais alors que de bon cœur je fais de l'innovation sociale et qu'on me dit c'est de l'innovation sociale faible ce que tu fais, je crois que je le prends mal, non ?
Oui. Oui, alors il y a toujours un peu ce problème, enfin pas ce problème, mais c'est pas un jugement en fait, faible et forte. C'est simplement pour recontextualiser l'innovation sociale, parce que c'est vrai que l'innovation sociale c'est pas simple. C'est très large, il y a un spectre vraiment très large, et donc c'est pour différencier l'innovation sociale forte, qui elle est moins prise dans les institutions. Et en cela, on l'appelle forte parce qu'elle est toujours dans le système, mais n'est pas dans l'économie de marché, ou alors essaye d'être le moins proche de l'économie de marché, et donc se différencie plus de l'économie classique.
Ouais, je vois que Vincent veut réagir.
Si je peux rajouter un petit quelque chose. C'est dans l'idée de faible et fort, c'était plutôt des notions qu'on abordait en cours pour bien les caractériser. C'était dans le sens de l'écart qu'il y a avec la société qu'on a actuellement. Et les termes qu'il faudrait plutôt utiliser sont de réformiste pour une association faible, dans le sens où elle est encore en accord avec cette société en grande majorité et elle cherche à développer un aspect plus social, plus humain. Et la plus forte, c'est celle qui est transformiste, qui s'en éloigne le plus, qui a le plus de mal à se développer, s'intégrer, mais qui est la plus transformatrice, réellement.
Donc, transformatrice, c'est quoi ? C'est la révolution, en gros ? C'est ce que disait Fred tout à l'heure, c'est... Vous êtes des révolutionnaires ? Gilles ?
Au fait, je dirais pas qu'on est vraiment des révolutionnaires, vu que quand on parle d'innovation sociale, il y a beaucoup de gens qui pensent directement un peu au côté technologique, c'est-à-dire la mise en place du nouveau, un peu de trucs comme ça, mais dans notre cas, l'innovation sociale, c'est vraiment dans le but de se baser sur ce qui est déjà là, de faire ressortir de nouvelles valeurs, faire ressortir de nouvelles choses qui vont apporter un plus à la société, qui vont apporter un plus sur le côté social. C'est un peu dans cette logique qu'on est, c'est dans la logique du surgissement du nouveau, en dehors de ce qu'on a déjà. Et je prends un exemple très con, excusez-moi, que on a discuté en classe. Par exemple, il y a cette table, mon collègue Lolo, il monte sur la table et ça se transforme en escabeau. On peut dire que c'est de l'innovation, tu vois. C'est vraiment utiliser ce qui est déjà là pour faire ressortir quelque chose de nouveau qui va bénéficier la société, le social, dans un but précis de développement. Donc c'est pas forcément à côté technologique vraiment dans ce domaine, c'est vraiment comment il faut se mettre ensemble pour faire ressortir des initiatives qui vont vraiment contribuer au bienfait social, quoi.
Est-ce que du coup c'est obligatoirement collectif, l'innovation sociale ? Est-ce que moi je peux pas être seul innovant socialement ?
Ça, c'est une question aussi forte de l'innovation sociale. Nous, on pense, et je pense qu'on est un peu tous dans cet état d'esprit, que plus un projet est ancré territorialement, et donc plus il y a de participants sur le territoire, plus l'innovation est forte. C'est très compliqué de faire une innovation forte en étant seul, parce qu'elle sera d'autant peu ancrée sur son territoire, et d'autant moins en réponse aux attentes de son territoire.
Mais ce qui est important, je pense, c'est surtout de dire que, évidemment, que l'innovation sociale peut venir d'une initiative individuelle. De toute façon, si elle est bonne, si elle contribue à quelque chose pour les gens, pour le territoire, tu resteras pas seul très longtemps. Voilà. Et puis, surtout, on est toutes et tous entourés par des gens qui font des choses à leur échelle. Et finalement, c'est aussi là la question de se mettre en réseau, de se mettre ensemble, de partager, de communiquer, qui fait que... Non, je pense qu'on ne peut pas être seul à faire de l'innovation sociale. Même si on démarre tout seul, on ne le reste pas très longtemps en général.
Et pour ajouter à ce que Loïc il a dit, l'innovation sociale, la clé, ça rentre dans le social. Alors c'est quoi le social? Le social, c'est quelque chose qui se fait pour profiter à la société, pour profiter au bienfait des individus. Alors si je me lève, je fais quelque chose dans mon coin sans la contribution d'autres acteurs qui sont vraiment intéressés dans ce que je fais, je ne dirais pas que c'est forcément du social. Parce que ce que je fais, il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui sont à la même échelle, qui ont les mêmes intérêts que moi, pour qu'on se mette ensemble, pour pouvoir vraiment mettre ce projet à fond, pour pouvoir le porter comme il se faut. Donc... S'il n'y a pas la multiplicité des acteurs, si les acteurs ne se mettent pas ensemble à un niveau vraiment horizontal, ça ne sera pas possible de vraiment mettre à bien un projet d'innovation sociale.
Voilà. Ça vous questionne, vous, autour de la table, cette innovation sociale ou pas ?
Donc moi, si j'ai bien compris, je suis en soirée, je monte sur une table qui me sert d'escabeau, je suis tout seul, c'est une innovation sociale qui est faible parce que je suis tout seul. Par contre, si je suis avec tous mes potes, qu'on est à plusieurs sur la table, on est en mode collectif, là, ça devient une belle innovation sociale, si en plus, ça peut servir à tous ceux qui sont en dessous.
Je pense que tu as mal compris le concept. Il faut être studio, hein. Le concept, c'était pas ce que toi, tu fais de la table. C'était la transformation de la table en une autre chose. Parce qu'une table, en vrai, ça sert de quoi? De repositoire, de poser quelque chose, de déposer des trucs. Mais là, tu ne l'utilises pas pour poser quelque chose. Tu t'arrêtes dessus, tu te sers de ça comme un podium. Et c'est dans ça que c'est de l'innovation. Ce n'est pas le fait que tu t'arrêtes dessus pour parler avec tes collègues ou le nombre de personnes qui sont sur cette table que ça rend ça une innovation sociale. Mais c'est la transformation de cette table en autre chose, autre que son rôle normal de table, que celui à laquelle on a maintenant des trucs, qui fait de cela une innovation sociale. Donc ce que je voulais dire, c'est que l'innovation sociale, ce n'est pas forcément la création de quelque chose de nouveau, mais c'est l'utilisation de quelque chose qui existe déjà à de nouvelles fins.
Et le sens qu'on lui donne.
Voilà, pour pouvoir faire profiter au maximum la société et le social. C'est dans cette logique que l'innovation sociale est. Donc l'innovation sociale ici, c'est la transformation de la table en son rôle de repositoire où on pose des trucs, en autre chose qui n'est pas forcément une table, qui ne joue pas ce même rôle. Et voilà, et du moment où ça ne profite pas à la société en général, ce n'est pas du social. Ça reste juste de l'innovation. Je ne sais pas si tu comprends maintenant un peu ce que j'essayais d'expliquer.
Et peut-être que du coup, pour qu'on comprenne mieux, vous qui êtes des spécialistes de l'innovation sociale, vous devez certainement en fait, avoir des projets, des choses peut-être pour qu'on puisse mieux matérialiser en fait, ce que vous entendez au-delà du concept d'innovation sociale, mais par voilà, innovation sociale, ancrage territorial, vous l'avez dit, dimension collective, forte, tout ça. Voilà. Comment vous le matérialisez, vous?
Alors oui, moi, j'ai un projet. Ce qui est bien dans ce master, c'est qu'il y a un UE qui s'appelle l'idéoprojet. Et donc, on peut utiliser cet UE pour mettre en place un projet que l'on a à l'esprit et essayer d'avancer dans ce projet pour le faire éclore. Et donc, moi, j'ai un projet qui est de produire de la corme, ce qui est une boisson un peu telle le cidre, voilà, qui a disparu, qui était présent en Auvergne et qui a disparu. Et en plus de cela, le cormier qui fait la corme est une variété en voie de raréfaction, disparition presque. Donc, il y a aussi un aspect environnemental. Donc, en cela, moi, je pense que c'est une innovation sociale. Il sera... Donc, le but de ce projet-là, c'est de remettre un savoir-faire de la production de cornes qui avait disparu sur le territoire. Donc il y a l'aspect social et puis aussi l'aspect environnemental qui est de réintégrer des plantes en voie de raréfaction sur le territoire. Donc il y a ces deux aspects-là. Et puis je vais pas le faire seul dans mon coin. Je vois pas l'entrepreneuriat comme ça. Je vais pas le faire seul dans mon coin. Ça serait un projet qui sera ancré sur son territoire avec les différents partenaires à tous les stades du projet. Voilà, que ce soit pour débroussailler le champ, planter, entretenir, fabriquer la boisson, la distribuer, tout ça. Voilà, j'essaierai de le faire en tout cas avec le maximum de partenaires possible.
Les gars, d'autres projets ? Gilles ?
Moi je suis plus dans le domaine de l'économie circulaire. Parce que je suis à fond dans les questions de recyclage de déchets, de revalorisation et tout. Et mon projet se porte plus dans l'innovation sociale, dans le sens où moi je vois l'économie circulaire en vraiment facteur de développement durable. Et pour arriver à mes fonds, je monte un bureau d'études, voire ASOS, qui a le but de vraiment faire travailler les petites entreprises, les PME. Dans le cadre où on va prendre leurs déchets dans le biais d'associations de réinsertion sociale qui sont vraiment en recherche d'activité pour leurs membres. Et quand on va prendre ces déchets avec ces petites entreprises, on veut les envoyer vers les grandes boîtes qui sont vraiment à fond dans la transformation de ces déchets que ces petites entreprises produisent mais ils ne savent pas quoi en faire, et dont on les transforme, qu'on va redonner à ces petites entreprises pour qu'elles en tire profit, pour qu'elles puissent les réutiliser vraiment dans le cadre de leur commerce. Donc je veux faire travailler les petites et moyennes entreprises, 2, les associations dans le domaine de la réinsertion sociale, et 3, les grandes boîtes. C'est un peu comme un circuit qui va marcher entre ces trois boîtes, et moi dans le centre je joue un peu le rôle d'intermédiaire, voilà, un peu plus pour vraiment faire marcher ce cycle, pour que les petites entreprises elles arrivent à vraiment revaloriser leurs déchets, les associations de réinsertion sociale trouvent des activités pour leurs membres, et les grandes boîtes aussi arrivent à contribuer à la revalorisation de ces déchets, et aussi embellir, pour dire, leur RSE. Voilà.
Cassandre, Elodie, ouais, Fred, je ne sais pas si ça vous questionne, ces projets.
Non, mais moi j'ai des exemples en termes d'innovation sociale. Vous avez parlé de réhabilitation, du coup d'utiliser des choses qui existent déjà et de les réutiliser en innovant, justement. Je pense à l'agriculture urbaine. Moi c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. C'est pas un domaine pour moi qui doit remplacer l'agriculture dans les campagnes. Parce qu'il y a aussi des problématiques de paysage et de, justement, tu parlais d'espèces, de revalorisation des espèces en milieu campagnard. Mais par exemple, l'agriculture urbaine à Paris, ils utilisent des bâtiments qui sont abandonnés et pour les transformer en champignonnières. Et ça, par exemple, c'est de l'innovation sociale. Alors oui, effectivement, c'est à but de rentabilité, mais au moins, ça utilise des bâtiments qu'on n'utilise plus. Et pour justement produire sur Paris, au lieu d'importer des champignons de Hollande, etc. Donc ça peut être un exemple aussi d'innovation sociale.
C'est pour ça que, en fait, quand on parlait d'innovation sociale faible et forte, c'est en aucunement un jugement de valeur. Et le projet dont tu parles pour la champignonnerie, c'est un projet extraordinaire, qui peut être considéré comme une innovation sociale faible, ce qui n'enlève pas tout le beau côté du projet.
Je pense que ce que ça soulève en plus, et c'est en cela c'est aussi super ce genre de projet, c'est que ça re-questionne en fait l'habitabilité de l'espace, que tu sois en ville ou en milieu rural. Chaque espace a ses propres enjeux, ses propres difficultés, et justement tous ces projets innovants, qu'ils soient citoyens ou de type entrepreneurial, ils apportent la majeure partie du temps des réponses à toutes ces questions de l'habitabilité et comment se réapproprier l'espace. En ville, ça va être les toits, les sous-sols, les bâtiments abandonnés, les friches. On a travaillé là-dessus avec un de nos profs cette année, du coup, sur les friches urbaines, etc. Comment revaloriser le bâti. Et je trouve que l'innovation sociale aussi a plein de réponses à apporter à ce genre de questions.
Oui.
Pour ajouter un petit mot là-dessus, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces innovations qu'on les caractérise de faibles et fortes, il ne faut pas s'attarder au terme, mais ça forme un écosystème, dans le sens où les unes s'alimentent des autres. Le jour où, par exemple, il y a une vraie crise et les innovations qui sont les plus transformatrices, qui sont les plus éloignées de notre modèle actuel, vont pouvoir proposer des solutions, mais elles ne pourront qu'à un moment, si le terrain a été préparé et les autres innovations auront un peu préparé le terrain pour, par exemple, le projet des champignons à Paris. Questionne l'habitabilité de l'espace, l'utilisation de l'espace et permet à d'autres projets de naître. Et on voit énormément de projets qui naissent, une pléthore de projets. Et pour moi, c'est vraiment un écosystème qui évolue ensemble.
Le débat continuera ce soir à la maison des sports. Non, à la maison du peuple. Fred, depuis tout à l'heure, fait des tractions sur la table. Du coup, il m'a perturbé. À la maison du peuple. Voilà, ce soir, en tout cas, on a bien compris que pour faire de l'innovation sociale, faut être motivé. Vous êtes plein d'enthousiasme et ça fait vraiment plaisir à voir. Et nous, on peut vous souhaiter qu'une seule chose, bah, c'est de continuer et de transformer la société, hein, si j'ai bien compris.
On le fera tous ensemble.
Merci.
Merci les gars.
Bienvenue on Radio Campus.
93.3 sur la FM.
Et on enchaîne avec Élodie d'Astuscience. On parlait de recherche en innovation sociale, on parlait d'étudiants. Et toi, tu vas nous parler des chercheurs qui se mettent à nu.
Bah oui, on va parler des chercheurs qui se mettent à nu parce qu'en fait, c'est un projet que l'on porte avec l'association Doctovergne, donc Astuscience et Doctovergne. Et ce projet, justement, c'est une web-série qui permet de valoriser un petit peu les chercheurs auvergnats. Et montrer aussi que la recherche en fait en Auvergne elle est riche. Et justement le prochain épisode va s'intéresser et va porter en fait sur un chercheur en particulier, donc qui est Nicolas Duraca, donc les étudiants viennent de nous en parler justement, sur l'innovation sociale. Et donc il va nous expliquer un petit peu plus ce qu'est l'innovation sociale, mais surtout il va nous parler de sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que l'objectif de ces vidéos, c'est vraiment de donner une autre image du chercheur, de montrer que c'est quelqu'un comme tout le monde, c'est pas un surhomme ou une surfemme, et qu'il a une vie à côté de son travail de recherche. Et comment est-ce qu'il arrive à concilier son travail de recherche, sa vie personnelle, et évidemment, on parlera quand même de la thématique du sujet qui est importante et qui fait écho à tout ce qu'on a entendu ce soir.
Donc ce soir, tu casses une rumeur, Nicolas Duraca ne va pas se déshabiller.
Après, il peut s'il veut. Hein.
Je sais pas. Mais si.
Bon, Nicolas, si tu nous écoutes, tu sais hein, ce qu'il te reste à faire. Donc, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer le déroulé de. Je crois qu'il y a eu un précédent avec Lucie Poulet, c'est ça?
Exactement. Donc, en fait, l'idée d'une web série, c'est comme son nom l'indique, c'est une série. Donc, il est censé avoir plusieurs épisodes. Donc, on a réalisé un premier épisode qui est sorti en octobre sur Lucie Poulet, donc qui nous parlait un petit peu de sa vie de thésarde et comment est-ce qu'elle arrivait à concilier sa vie aussi de sportive, parce qu'elle est sportive à côté de ça, avec sa vie de thésarde. Et elle nous a parlé de comment elle faisait pousser, elle essayait de faire pousser des végétaux dans un environnement de plus faible gravité que la gravité terrestre. Et puis voilà, donc ensuite, suite à cet épisode, on s'est dit, allez, on continue, ça a bien fonctionné, on a eu un bon écho, donc on a voulu continuer le projet et on s'est donc intéressé à un nouveau chercheur. Et l'objectif, c'est d'arriver à réaliser à peu près 10 épisodes sur cette web-série, donc à raison de 1 ou 2 épisodes par an en fonction de comment on arrive à s'organiser et des financements qu'on arrive à trouver aussi pour réaliser ce travail-là.
L'objectif du coup, c'est quoi? C'est de montrer finalement que les docteurs, les doctorants sont des gens comme les autres. C'est de montrer leurs difficultés, c'est donner envie aussi aux autres de faire de la recherche, et quoi exactement le...
Oui, c'est un peu tout ça en même temps, c'est-à-dire c'est vraiment montrer en effet que les scientifiques sont pas des hommes qui viennent d'une autre planète ou des femmes qui viennent d'une autre planète, qu'ils ont aussi une vie, qu'ils ont aussi des passions, que la recherche est peut-être une passion en soi, hein, qu'ils peuvent choisir de s'orienter vers une thématique scientifique parce qu'ils sont passionnés de cette thématique scientifique, que c'est en fait que la recherche est ouverte à tous aussi, que n'importe qui, n'importe quel enfant qui peut regarder cette vidéo peut se dire bah moi plus tard je serai scientifique et je serai chercheur, aussi bien les filles que les garçons, parce qu'il y a la problématique, il y a beaucoup moins de femmes malheureusement en sciences que d'hommes, Donc voilà, c'est donner envie, c'est donner avoir un panel de profils différents, parce que entre Lucie et Nicolas par exemple, ils sont pas arrivés à faire de la science du tout par la même voie. Ils ont découvert la recherche de façon totalement différente l'un et l'autre. Il y en a un qui a eu plusieurs vies avant de se dire je vais faire une thèse et je vais et travailler sur l'innovation sociale. Nicolas, Lucie, bah voilà, elle a suivi un parcours plutôt linéaire, classique, et elle a fait sa thèse dans la poursuite de ses études normales. Donc c'est aussi pour montrer que voilà, il y a plusieurs portes d'entrée à la recherche et que c'est accessible à tous.
Et vous les choisissez comment du coup ces jeunes chercheurs? C'est, vous les croisez dans la rue, ah tiens t'es chercheur, bah viens faire l'émission, il y a un réseau, une association, ça, moi si je suis doctorant et que je veux me mettre à nu, comment je fais?
On les choisit au pif. non pas du tout, en fait évidemment comme je le disais, on est associé à l'association donc d'Octauvergne, donc l'association des doctorants auvergnats, ce qui nous permet quand même d'avoir un vivier de doctorants a priori qui pourraient être intéressés par le projet. Et évidemment s'il y en a qui voient la vidéo des jeunes chercheurs ou des doctorants, enfin on dit des jeunes chercheurs en règle générale, qui voient ces vidéos et qui sont intéressés par le sujet, ils peuvent tout à fait nous contacter et nous dire bah oui moi ça m'intéresserait de pouvoir parler un petit peu de moi, de mon sujet de thèse ou de mon sujet de recherche.
Ok, donc rappelle-nous, prochaine échéance là pour la prochaine vidéo.
Alors la prochaine vidéo va sortir pendant la semaine de l'innovation, c'est du 23 au 27 avril à Clermont-Ferrand, et je vous invite aussi tous à soutenir le projet sur la plateforme de crowdfunding Tipeee, parce qu'évidemment pour réaliser des vidéos bah, ça demande un petit peu de moyens et on a besoin du soutien de tous pour pouvoir réaliser notamment le prochain épisode et puis tous ceux qui sont à venir. Donc et si vous pouvez nous donner un petit coup de main sur Tipeee, on vous remercie.
Eh bien super Elodie, merci beaucoup.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Frère et mon rire au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre. Plus rien, plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la Terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humain.
Et on se retrouve à la maison du peuple ce soir pour la soirée des alternatives. Et on est en présence de Cassandre et de Juliette qui sont toutes les deux étudiantes en licence pro économie sociale et solidaire, gestion des entreprises de l'économie sociale et solidaire, avec lesquelles, bonsoir les filles, avec lesquelles
bonsoir.
On va ce soir discuter, approfondir le débat qu'on a eu tout à l'heure avec les étudiants d'innovation sociale sur l'ESS, sur la loi. ESS, exactement. Qui existe depuis 2014. Mais déjà, allez-y, présentez-vous, dites-nous un peu pourquoi l'économie sociale et solidaire dans votre parcours et j'imagine aussi dans vos pratiques.
Bonjour, je m'appelle Juliette et la licence professionnelle, l'intitulé exact, c'est gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat, qu'il ne faut pas oublier parce que ça compte maintenant. Moi j'ai choisi cette licence pro, moins par rapport à ma formation précédente qui n'a rien à voir ni avec la gestion ni avec l'économie, grâce à mes expériences et notamment dans l'associatif, parce que j'ai pu être bénévole de plusieurs associations et l'année dernière j'ai fait un service civique aux Éclaireurs de France, qui est donc une association de scoutisme laïque. J'ai fait ça à Brest et le service civique, ça m'a permis en fait de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire, et le fait de le faire dans une association, ça m'a donné envie de me former à ça, sans avoir de grands projets derrière, juste être plus impliqué dans le milieu en ayant des vraies compétences. Voilà.
Ok, et toi Cassandre ?
Alors moi j'étais en études d'agriculture à Lyon et puis j'ai fait une licence en biologie et écologie et j'ai voulu faire ESS, cette licence en particulier pour avoir des apports en gestion de projet, comptabilité, marketing, communication, enfin voilà, pour compléter ma formation parce que moi je veux me tourner vers l'agriculture, notamment l'agriculture urbaine, parce que j'ai réalisé plusieurs stages du coup en agriculture et voilà, c'est le domaine qui m'intéresse.
Donc c'est intéressant parce que déjà dans vos parcours respectifs, on voit que finalement l'économie sociale et solidaire, c'est pas un champ économique, oui, mais c'est quelque chose de transversal, non ?
Oui, c'est ça. Et c'était un peu étonnant pour moi, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, j'en connaissais que l'associatif. Et du coup, je connaissais moins les autres statuts, notamment les coopératives ou les mutuelles. Et il y a une première chose qui est assez surprenante quand on entre dans la licence. On nous fait une belle présentation de ce que c'est l'ESS. Et après, en fait, il y a quand même tout un côté, bon, qu'est-ce qu'on met derrière l'associatif, qu'est-ce qu'on met derrière les coopératives. Et quand on commence à creuser un peu et on se rend compte que la caisse d'épargne, c'est de l'économie sociale et solidaire. Il y a d'autres choses.
Le crédit agricole aussi.
Voilà. Tout se critique et tout se réfléchit, mais ça permet de comprendre aussi que l'économie sociale et solidaire, c'est très ancré dans notre quotidien. Et un des premiers exercices qu'on nous a demandé de faire, c'est de lister les structures de notre quotidien qu'on pensait relever de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, on se rend compte qu'on en utilise tous les jours et qu'elles sont présentes de partout, même quand on ne se doute pas que ce sont des structures de l'ESS.
Mais du coup, vous pouvez peut-être nous expliquer en quoi, à la première vue, en quoi le crédit agricole serait social et solidaire ?
En fait, c'est principalement de par le statut. Parce que dans l'économie sociale, en fait, ce qui définit les structures de l'économie sociale, c'est d'abord en fait le statut de la structure. Donc il y a le statut associatif, statut coopératif, les mutuelles et les fondations. Et en fait, en possédant le statut, on intègre l'économie sociale et solidaire.
À l'époque, c'était du coup quand la loi est sortie en 2014, donc c'est la loi Hamon, c'était effectivement les coopératives, les mutuelles, les assos et les fondations qui étaient du coup, comme elle a dit Juliette, par leur statut dans l'économie sociale et solidaire. Et après, du coup, il y a un autre champ qui est arrivé, c'est l'entrepreneuriat, entrepreneuriat social, qui fait maintenant partie de l'économie sociale et solidaire. Et là où la loi, je pense, où elle peut être critiquable, et moi je n'ai pas peur de la critiquer, c'est qu'on a mis tout le monde dans le même sac et on a fait une loi globale pour des structures qui n'ont pas du tout les mêmes façons de fonctionner. Je pense à des associations qui sont ancrées dans le territoire depuis très longtemps et qui sont face, dans le cadre de marchés publics au sein des collectivités, mis en concurrence avec de l'entrepreneuriat social. Alors je dis pas que l'entrepreneuriat social, il n'y a que des trucs mauvais, hein, au contraire, mais c'est là où il y a des limites, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes façons de fonctionner et ils sont mis sur des marchés publics et ils sont en concurrence alors qu'en fait ils n'ont pas du tout les mêmes connaissances.
Donc au regard de cette loi sur l'économie sociale et solidaire, si moi, agriculteur, je me mets en coopérative et que je vends du glyphosate, je suis un acteur de l'économie sociale et solidaire ?
Oui, parce que t'es une coopérative.
D'accord.
Bah d'ailleurs, l'Imagrin, c'est une coopérative. Enfin, du coup, c'est là où c'est un peu surprenant. Après, chacun a sa vision de l'économie sociale et solidaire. Et même s'il y a une loi qui définit très clairement ce que c'est surtout, je pense, une sensibilité et ce qui nous paraît, nous, être de l'économie sociale et solidaire. Sachant que c'est pareil, qu'est-ce qu'on met derrière le terme solidaire, qu'est-ce qu'on met derrière le terme social, enfin, ça dépend un peu de chacun.
Bah justement, qu'est-ce que vous mettez vous derrière le terme social, derrière le terme solidaire? Finalement, ça serait quoi vous, votre loi idéale? Si, d'ailleurs, s'il doit y avoir une loi, est-ce qu'il faut qu'il y ait une loi économie sociale
non.
et solidaire?
Selon moi, il faut pas qu'il y ait de loi. Enfin, il faut qu'il y ait une loi parce qu'il y a toujours des lois. En fait, on s'aperçoit sur le terrain qu'il y a des associations qui fonctionnent, enfin qui font partie de l'ESS. Et en fait, qui ne sont pas du tout en lien avec la démocratie participative, par exemple. Alors que pourtant, c'est des associations. Et on peut se dire que, vu que c'est des associations, elles sont forcément en démocratie participative. Et pour moi, un projet solidaire, c'est un projet qui répond à une demande des habitants, en fait. Une demande importante. Et voilà. Et après, social. Vas-y, Juliette, je sais pas.
Bah, je sais pas, derrière le social, il y a faire ensemble, faire avec, faire pour les autres, faire pour soi aussi, mêler tout ça et faire en sorte que ce que tu crées, ben, ça serve à plus que toi et ton petit groupe de copains, quoi.
Mais donc finalement, si moi je veux faire quelque chose de social, de solidaire, promis, je vais pas vendre de glyphosate, mais est-ce que ça se rapproche pas un peu de ce que disaient les étudiants tout à l'heure, c'est-à-dire l'innovation sociale? Est-ce que la vraie économie solidaire, je sais pas d'ailleurs si on peut l'appeler comme ça, mais c'est pas l'innovation sociale, c'est-à-dire la réponse à des aspirations collectives, à une réponse à un territoire?
En fait, il y a une des grandes caractéristiques de l'ESS, c'est le fait que c'est une économie qui est innovante, en fait. Et du coup, ce que disaient les étudiants tout à l'heure, l'innovation sociale, ça fait partie intégralement de l'ESS. Et c'est pas censé être en marge, c'est pas juste un bonus, une valeur ajoutée à une structure. Non, ça doit faire partie du processus, de la démarche de créer quelque chose dans l'économie sociale et solidaire. On part du principe que l'ESS, bah, c'est innovant.
Fred, ça te fait réagir, ça, l'économie sociale et solidaire? Tu nous en as pas parlé dans ton billet tout à l'heure.
Non, j'ai oublié sur le moment, tu vois. C'était compliqué pour moi, cette histoire. Par contre, le mot innovant, je l'entends beaucoup. Et je me pose la question, par rapport à tout ce qu'on présente, est-ce que tout ceci est nouveau? Et si tout ceci est nouveau, pourquoi est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Quel est le contexte tout de suite pour qu'on ait un tel développement de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que cette économie sociale et solidaire répond à un besoin? Est-ce que finalement elle va combler certaines carences au niveau de la société? Ou est-ce qu'elle ne fait qu'entretenir un système? Est-ce qu'elle permet de réfléchir sur le fond et de modifier la société? Voilà un peu ce qui m'interroge tout de suite.
C'est un peu tout ça à la fois, je pense. Enfin, en fait, ça fait longtemps que ça existe, l'ESS, et on en parle de plus en plus. Mais tu vois, par exemple, c'est facile de comprendre ce qui va pas dans une société. Tu regardes les associations qui se sont créées dans ton présent, en fait. Et les associations qui se créent, en fait, la plupart se créent en réaction à quelque chose. Et en fait, tu peux vite comprendre quels sont les problèmes de ta société si tu fais attention aux associations qui se créent dans ta société, parce que ça veut dire qu'il y a un moment, ben, l'État, il pêche là où il doit agir. Les associations vont prendre le relais et vont s'occuper de problématiques qui sont pas ou moins bien gérées par l'État. Et du coup, c'est vrai que ben, je parle de l'associatif parce que c'est ce que je connais le mieux, mais c'est en réaction à ce qui se passe, et ça entretient moins le système que ça le, comment dire, ça le complète, en fait.
Tu parles de l'État, là, les filles. Quel est le rôle, finalement? Est-ce qu'il y a un rôle de l'État dans l'économie sociale et solidaire? Tu dis que c'est une réponse qui n'est pas prise en compte par l'État, donc du coup, les acteurs associatifs le font, mais est-ce que c'est leur rôle de le faire?
Alors, les acteurs, oui. L'État, moi, je pense pas. Après, là où l'ESS y prend son sens, c'est vraiment les acteurs qui font que les projets marchent, en fait. Et du coup, après, là où je suis pas d'accord, c'est que on parle beaucoup d'innovation, mais il faut pas oublier que l'ESS, c'est assez vieux, et ça date même de 1800, en fait. Et c'est des ouvriers qui ont créé les premières scopes, les premières SIC, et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Et maintenant, il faudrait qu'il y ait une fédération, en fait, même au niveau des associations, on s'aperçoit qu'elles ont aussi du mal à se fédérer, et qu'en fait, je trouve que la loi ESS, elle a entraîné un clivage entre les différentes structures et les différentes sortes de structures, au lieu de les fédérer, tout simplement, parce que justement, elles sont mises en concurrence sur des marchés alors qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et je trouve que c'est là où l'État il devrait intervenir, en fait. Ça serait de refédérer tout ça et au lieu de mettre tout le monde en concurrence, parce que l'ESS, c'est un projet aussi global. Et je trouve que parfois, il y a des associations qui font les mêmes choses au final, qui pourraient se fédérer et qui ne se fédèrent pas, en fait. Moi, c'est là où je peux critiquer.
Ouais, ma question, on parle beaucoup donc d'exemples français depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on a des exemples en dehors de nos frontières? Est-ce que l'ESS est limité au territoire français métropolitain? Est-ce qu'il y a des choses en Europe, ailleurs, un peu plus loin? Est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, ou est-ce que d'autres peuvent s'inspirer d'ailleurs de ce qu'on fait?
Bah, l'ESS, ça n'existe certainement pas qu'en France. Après, pour être honnête, dans notre licence, on parle surtout de ce qui se fait en France et sur le territoire auvergnat, puisque du coup, nos intervenants sont du coin, donc ils nous parlent de ce qu'ils font au quotidien. Après, évidemment qu'il se passe des choses partout. Il y a des super documentaires qui parlent d'initiatives qui se font partout dans le monde, mais je pourrais pas forcément t'en parler.
Après, il y a les systèmes coopératifs, par exemple en Inde, systèmes de coopératives agricoles qui sont créés justement pour éviter que les agriculteurs soient soudoyés par des grosses entreprises comme Monsanto. Ça peut être l'ESS. Après, il y a d'autres exemples. On regarde les films de demain, Le Champ des Possibles. Bon, ça, c'est aussi des initiatives qui sont en France, mais oui, je pense qu'il y en a beaucoup. Après, je ne peux pas les énumérer.
Bah, ma question, c'est comment est-ce qu'on intègre une réflexion auvergnate, pour reprendre ce terme, dans une réflexion un peu plus globale, nationale ou même internationale?
Alors, en fait, cette question, je ne saurais pas y répondre, mais par contre, je pense qu'il faut arrêter de globaliser tout, en fait, parce que chaque territoire a ses problématiques, a ses acteurs différents, et qu'en France, on a tendance, enfin en France, même, en fait, dans le monde, j'ai l'impression qu'on a tendance à tout globaliser, et parfois, il y a des choses qu'il ne faut pas globaliser, en fait. Enfin, c'est mon avis, mais...
Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est que en vous écoutant, en écoutant les étudiants tout à l'heure, c'est que finalement, l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale, ce sont des pratiques citoyennes avant tout. C'est ce qu'on a ce soir. Que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le service à la personne, etc. Et là, du coup, je me tourne vers Coralie, puisque Coralie d'Alternativa est avec nous ce soir pour nous présenter le Tour de France des alternatives et plus particulièrement l'événement qui se tiendra à Clermont-Ferrand en juin.
Et oui, le Tour Alternativa donc, va revenir pour sa deuxième édition en 2018. Et qu'est-ce que c'est? C'est 4 mois de juin à octobre sur des vélos multiplaces. Ça fait quand même 5800 km à pédaler, ça fait beaucoup. Et le Tour Alternativa va s'arrêter sur 200 étapes en France et dans les pays frontaliers. Et le 17 juin à Clermont-Ferrand. Et sur chaque étape, en fait, ça va être l'occasion de parler des enjeux autour du dérèglement climatique, donc de sensibiliser les gens, de mettre en lumière les porteurs d'alternatives. Il y aura des formations à l'action non violente, des conférences. Et nous, on organise plein de trucs pour cette grosse arrivée, à la fois un événement alternatif et culturel, qui sera, on l'espère, au Jardin Lecoq, donc déjà à noter. Le okay. 17 juin.
Ce soir, l'Utopie organise une sorte de village, un petit village des alternatives. On voit qu'effectivement, comme je le disais, il y a beaucoup d'acteurs sur des champs super différents. Est-ce que c'est un premier relais, un premier pas finalement au village des alternatives qui sera organisé en juin? Est-ce que votre présence aussi ici, c'est pas un hasard? C'est qu'effectivement qu'il y a un lien peut-être, non?
Mais tout à fait. En fait, le Alternativa est né comme ça, avec un village des alternatives, le tout premier à Bayonne en 2013, et on nous a été invités à multiplier ces villages. C'était avant la COP21, donc c'était un moment où il y avait beaucoup de tensions autour de ces enjeux-là, et il y a eu des centaines de villages qui ont été faits partout. Il y en a eu un en 2015 à Lande, ici, qui a été organisé par Alternativa 63, et c'est comme ça que le collectif Auvergnat s'est créé. Et du coup, de voir que maintenant le terme s'est popularisé et qu'il y a des gens qui font absolument pas partie d'Alternativa qui reprennent ça pour organiser des événements où tous les porteurs sont rassemblés, et ben ça montre qu'en fait ça a eu un impact énorme, toute cette mobilisation.
Donc concrètement, les bénévoles de l'Utopie que je vois derrière, ou les bénévoles du Parc Oasis que je vois à côté de nous, comment ils vont pouvoir s'engager, s'investir dans cette organisation?
Eh ben, certains sont déjà engagés. En fait, on est en train de rassembler tous les partenaires, toutes les associations, et d'ailleurs pas forcément des associations, aussi des industries, tous ceux qui sont en train d'essayer de bâtir un monde meilleur pour demain, en fait, à essayer de venir et d'organiser vraiment pour ce 17 juin, pas un truc où chacun a son stand, mais vraiment quelque chose où on propose des activités. En fait, ce qu'on veut, c'est montrer que les alternatives, c'est pas un effort, en fait. On peut vivre mieux, plus facilement, en les utilisant et en essayant de sauver la planète au passage. C'est quand même plutôt pas mal.
Et si je suis citoyen lambda et que je suis intéressé, alors je suis pas forcément dans une association, mais je suis intéressé pour donner un coup de main, comment je peux faire avant le 17 juin?
Eh ben, tu peux nous contacter à touralternativa63@alternativa.eu, ou alors nous trouver sur Facebook, sur Twitter. Et on peut aussi vous donner un petit rendez-vous à la Maison du Peuple. Encore, on reviendra ici le 11 avril pour un gros événement, pour parler du tour et puis pour faire la fête aussi, parce que c'est sympa.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Coralie, merci à tout le monde d'avoir fait cette émission ce soir, c'était un vrai plaisir. J'imagine que les débats vont continuer ce soir à la Maison du Peuple. Et puis je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, et puis à très bientôt, j'espère.
Vous venez d'écouter Quoi de neuf Doc, l'émission de Doc Auvergne.